doit aller plus vite. Vous allez garder le mien qui ne marche pas, et moi je vais prendre le vôtre.
Ça fait deux fois que vous me faites ça.
Oui.
Vous m'avez déjà pris mes chaussures, maintenant mon vélo.
Bidon réglable, en hauteur.
Les lettres affranchies à 2 centimes seront acheminées à Vélocipède.
Le nez dans le guidon, sur Radio B.
Quand on partait sur les chemins, à bicyclette.
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Adrien Debiasaïd et aujourd'hui, on se retrouve en direct sur Radio B pour parler et débriefer le Tour de l'Ain U17. Mais je ne suis pas seul aujourd'hui, je laisse les gens présents avec moi au studio se présenter. Gabin, tu commences ?
Bonjour, moi je suis Gabin Bachelet, donc je suis cycliste au club de Bourg-en-Bresse à l'ECBB. Et donc j'ai eu la chance cette année de participer au Tour de l'Ain U17.
Alain ?
Oui, Alain Rude, donc au niveau du Tour de l'Ain, je suis là en tant que speaker.
Donc le Tour de l'Ain U17, pour ceux qui ne savent pas, c'est une course internationale fondée en 2003 pour les U17, c'est-à-dire les coureurs ayant moins de 17 ans. Donc pour cette édition, ce sont les 2008 et 2009. Cette course se déroule sur 3 jours et précède les coureurs professionnels. Les jeunes courent sur les mêmes tracés que les pros, ils empruntent donc les mêmes routes que les professionnels et bénéficient des mêmes installations, du même public. La seule différence étant qu'ils partent de plus proche de l'arrivée pour raccourcir la course, vu qu'il reste encore des jeunes coureurs. C'est une épreuve très réputée, on retrouve des coureurs qui viennent du monde entier, c'est une épreuve internationale et de nombreux pros actuels sont passés par le Tour de l'Ain U17. On a vu passer notamment Bob Jungels, un luxembourgeois qui court actuellement le Tour de France, les frères Paré-Pinte qui ont tous les deux gagné sur le Giro cette année et l'année passée, Johan Ayuso qui est un équipier de Tadej Pogacar et qui a fait le Tour de France cette année avant de malheureusement abandonner suite au Covid alors qu'il était encore dans le top 10. On a également les locaux avec Pierre-Luc Perrichon qui était coureur pour le Vélo Club d'Ambérieux qui est maintenant un nouveau retraité et qui cherche à fonder son club professionnel d'ici 2026. Mais également Geoffrey Soupe qui court toujours pour la Total Energy. Il était à l'ECLBB et il a gagné d'ailleurs la première édition. Et enfin, on retrouve Florent Grenbeau qui est maintenant, il fait de la piste et il cherchera à gagner l'or olympique en vitesse par équipe. Et enfin, on retrouve le grand Thibaut Pinot qui nous aura fait vibrer tout au long de sa carrière. On retrouve dans le Tour de l'Ain U17 de nombreuses spécificités et différents maillots. Donc le Tour de l'Ain U17, il possède tout comme le Tour de l'Ain professionnel différents maillots. Néanmoins, cette course est avant tout une course d'équipe. C'est pourquoi les organisateurs ont mis en place des classements par équipe. Ce n'est pas le meilleur coureur qui porte le maillot jaune de leader, mais la meilleure équipe. Les différents classements se basent sur les 3 premiers coureurs de chaque équipe. On retrouve le maillot jaune qui, comme sur le Tour de France, est pour la première équipe au classement général. Le maillot à poids qui se base sur la meilleure équipe, en haut des bosses répertoriées. Le maillot bleu pour l'équipe ayant remporté l'étape de la veille. Cette idée de classement par équipe encourage et développe l'esprit d'équipe chez les plus jeunes. Seul le maillot vert, qui était le classement du meilleur sprinter, appelé ici le meilleur combatif, seul ce maillot se base sur le premier coureur à franchir la ligne du sprint intermédiaire disposé sur le tracé. Cela permet d'éviter qu'un groupe de lâchés se fasse un sprint et risque une chute. Donc seul le premier a besoin de sprinter. Mais comme pour les 3 autres maillots, c'est toute l'équipe qui porte ce maillot distinctif. Alain, tu es speaker, sur ce Tour de l'Ain U17. Est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle pendant, mais aussi après la course ?
Eh bien, pendant la course, c'est assez simple. Il suffit donc d'informer les gens, puisque au fil des années, le public est de plus en plus important, y compris pour le prologue, pour les U17. Donc, c'est de donner les informations aux gens en lien avec le directeur de course. C'est aussi d'expliquer la réglementation. Les gens ont du mal à comprendre qu'on fait une course, mais qu'il n'y a pas de classement individuel. Celui qui coupe la ligne le premier, il n'est pas forcément le vainqueur. On détaille tout ça et on a les informations. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de remercier chaleureusement Valentin Stibel, donc, qui a fait un énorme travail et qui m'informait à chaque action, chaque mouvement des coureurs. Excellent. Et puis après la course, il y a la cérémonie protocolaire avec la remise des maillots. Et puis on s'efforce de présenter les équipes. On a 31 équipes qui participent et c'est sympathique de mettre en évidence tous ces jeunes.
31 équipes, tu l'as dit. Donc on retrouve 5 coureurs par équipe. Donc un total de 155 coureurs présents au départ, 18 équipes françaises et 13 étrangères, Parmi les équipes françaises, il y a les deux équipes locales, le Vélo Club Ambérieux et l'école de cyclisme de Bourg-en-Bresse. Gabin, tu faisais partie de l'équipe de l'ECBB. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as été appelé pour disputer le Tour de l'Ain, cette course dont tu entends parler depuis ton arrivée au club, j'imagine?
Bien sûr, j'étais très content, plutôt ému parce que, oui, depuis le début, depuis que j'ai été en cadet, on m'en a vite parlé parce que faut savoir que c'est un des tours U17 le plus réputé, donc le plus grand. Et j'étais très content de savoir que je pouvais disputer une course à niveau international. Et ça s'est très bien passé, donc très content.
Pour les autres équipes françaises, on retrouve des équipes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, comme le Vélo Club de Villefranche-en-Beaujolais ou la Motte Cervelet. On retrouve aussi des clubs qui viennent du Grand Est, comme le VC Egversheim, de Bretagne avec l'Union Cycliste Brioschine ou encore de la région parisienne avec l'équipe de Paris Cycliste Olympique. Côté étranger, on retrouve 3 équipes néerlandaises, une portugaise, 4 belges, une suisse, 2 luxembourgeoises et une italienne. On comprend donc que les gens viennent du monde entier pour participer à cette course. De nombreuses équipes habituées à venir sont également présentes au départ et certaines ont même déjà remporté l'épreuve. On se souvient par exemple de la formation suisse Stahl Romandie qui avait remporté l'épreuve il y a 3 ans, en 2021. Alain, parle-nous de ces anciennes équipes et vainqueurs du maillot jaune, s'il te plaît.
Eh bien, les clubs représentés cette année, 8 se sont imposés par le passé. On saluera donc l'école de cyclisme de Bourg-en-Bresse qui s'était imposée lors de la première édition avec un certain Geoffrey Soupe. L'Amicale Cycliste Bisontine aussi, qui est régulièrement, c'est un club solide ça, qui est régulièrement présente, donc c'était imposé en 2005. L'Union Cycliste Gessienne, ils étaient là aussi nos amis gessiens, hein. On les considère un petit peu de l'un quand même. Hein. Eux ont remporté l'épreuve en 2018, mais il est vrai qu'à l'époque ils avaient un coureur qui était extérieur. Hein, donc voilà. Le Sprint 2000 Charleroi en 2008, donc première équipe belge à s'être imposée. Et pour l'anecdote, le coach Didier Dieudonné est là depuis le début. Cette équipe, elle a participé à toutes les éditions depuis 2007, sauf à une reprise. Avec la Belgique, le team Géotherme Carbonite Marchevolette, le club de Marchevolette, a imité ses collègues de Charleroi en 2011. Ensuite, eh bien, ce sont les Hollandais qui se sont imposés. On parle des équipes qui étaient présentes cette année, bien sûr. Hein, le Wieler Training Club d'Amstel. Victoria en 2016. Les Italiens d'Esperia Piasco ont découvert l'épreuve en 2016. Ils se sont imposés en 2017. Ils ont remis le couvert en 2019. Et cette année, je crois bien, Adrien, qu'ils ont dû souffrir un peu plus. Et puis donc, tu as la Romandie. Les Suisses, vainqueurs en 2021. Et de nouveau présents cette année.
Oui, en plus, ils ont joué un rôle lors de cette édition. On en reparlera plus tard. Donc, de nombreuses équipes habituées à venir qui ont déjà gagné, mais également de nouvelles équipes qui apparaissent chaque année, qui viennent pour découvrir le Tour de l'Ain. Donc, après avoir présenté les équipes et la course, on va maintenant on va maintenant passer à la course. Mais avant cela, étant moi-même bénévole, je tenais à mettre en lumière le travail indispensable de ces gens de l'ombre, sans qui la course n'existerait pas. On écoute donc Daniel et Laurent, qui nous expliquent leur rôle et les raisons qui les poussent à être bénévoles.
On est présent parce qu'on aime le vélo avant tout, et on aime aider les jeunes à assouvir leur passion.
Faisant partie du Vélo Club d'Ambérieu, le Tour de l'Ain, c'est un peu une référence chez nous les jeunes. Donc on leur parle du Tour de l'Ain depuis tout petit. Donc voilà, donc naturellement nos jeunes ont fait le Tour de l'Ain, et bien après on est devenus bénévoles pour le Tour de l'Ain, et maintenant on s'occupe des générations qui suivent d'année en année, et on occupe un petit peu tous les postes sur le Tour, que ce soit responsable parking, chauffeur, papa-maman pour les coureurs, papa-maman pour tout le monde. Et donc voilà, on fait un peu couteau suisse du Tour de l'Ain.
Donc je pense qu'on peut maintenant passer à la course. La première étape reliait la commune de Chaveria à Bourg-en-Bresse, en traversant par la Bresse et la Dombe, une étape presque toute plate, promise aux meilleurs rouleurs et sprinteurs, malgré la bosse de Châtillon-sur-Chalaronne qui faisait 1 km à 4%. Après un départ très rapide, marqué par une chute, près de 43 km/h sur la première heure de course, une échappée de 4 coureurs s'est détachée en ce début de course, avec 2 membres de l'équipe suisse Talent Romandie, un coureur de l'AMC Besançon, un membre de C2S Cessin-Cessinet. Il sera ensuite rejoint par un autre quatuor. C'est donc un groupe de 8 qui s'est joué la victoire au sprint. c'est finalement Gabriel Genter, coureur de l'équipe du VC Egversheim, qui s'impose d'un rien. Le peloton lui arrive à seulement 50 secondes après l'échappée. Le maillot jaune revient cependant à Talent Romandie, qui place deux coureurs dans le top 10. Avec deux membres dans l'échappée, l'objectif était atteint pour l'équipe suisse. On écoute leur analyse de leur victoire.
La stratégie, c'était qu'on essaye de placer deux personnes dans l'échappée pour pouvoir prendre le maillot. Et puis, vu que c'était la stratégie, j'ai essayé de l'appliquer.
Et du coup, comment vous avez fait? Ça s'est bien passé dans l'échappée? Ça passait bien les relais?
Oui, ça passait bien les relais jusqu'à 3 km. Où là, vu qu'on était en supériorité numérique dans l'échappée, j'ai dû rouler les 3 derniers kilomètres pour pas que le peloton revienne sur nous.
Du coup, tu finis bien dans le peloton. Comment tu as fait pour gérer ton sprint?
Bah, ça frottait pas mal. J'étais un peu loin à la flamme rouge. J'essayais de me replacer un peu. Et après, j'ai fait mon sprint classique, quoi. C'était un peu bouché, mais ça a été quand même.
Donc, le maillot jaune pour Talent Romandie. Alain, je te laisse présenter les autres maillots.
Eh bien, on avait le maillot vert. Hein. Ça, on fait comme dans les grandes courses. Le maillot vert, donc... qui était parrainé par Côté Particulier, qui est une entreprise bretonne, et par Securimut. Récompense donc la combativité. C'est le, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est le premier coureur au niveau de la ligne qui permet à son équipe de revêtir le maillot après. On peut pas se permettre, en effet, de faire prendre des risques trop importants à tous nos jeunes. Le maillot à poids, le maillot de la montagne, maillot traditionnel. Alors, nous le devons à ARP, générateur de business, et à Performance Vélo, des partenaires fidèles du Tour de l'Ain U17. Alors là, c'est sur trois coureurs, les trois meilleurs coureurs par club. Et c'est donc le C Saint-Étienne Noir qui avait gagné donc ce classement. Et le maillot bleu, c'est le vainqueur d'étape. Mais comme on ne cumule pas et que c'est plus sympathique sur les maillots, donc ce sont les coureurs alsaciens d'Egversheim qui l'ont porté le premier jour, ce maillot bleu-là, qui est donc parrainé par Osarm Équipement.
Et pour le maillot vert, du coup, c'est l'équipe d'Akrog Tormans qui a remporté le maillot vert. Akrog Tormans, qui est l'équipe de développement de la Soudal Quickstep, l'équipe d'un certain Remco Evenepoel ou encore Julien Alaphilippe. Donc c'est une équipe très prometteuse au niveau des jeunes, qui forme des jeunes coureurs pour les former au plus haut niveau dès leur plus jeune âge. C'est une étape qui était très rapide, où il faisait surtout très chaud, il y avait énormément de tension dans le peloton. Gabin, comment s'est déroulée ton étape et comment tu t'es senti dans ce peloton international?
Vu que c'était la première étape, c'était très tendu, donc ça frottait beaucoup dans le peloton, il y avait beaucoup d'à-coups et donc beaucoup de chutes. Donc j'avoue qu'au début, j'étais pas très confiant, j'avais du mal, mais au fur et à mesure, j'essayais de me décontracter un peu. Et puis, ça a accéléré à Châtillon et ça a fait un gros écart. Donc, à ce moment-là, j'ai un peu lâché. Mais c'était très tendu et j'ai eu un petit peu peur quand même des fois. Mais ça s'est bien passé, ça va.
Et oui, on le rappelle que les vainqueurs l'emportent avec près de 44 km en moyenne. Donc, moins de 2 heures pour faire 84 km alors qu'ils ont seulement 15 et 16 ans. La course passait notamment pas loin de chez toi, en plus, Gabin, sur tes routes d'entraînement. L'arrivée était même à Bourg-en-Bresse, la ville de ton club. Est-ce que ça t'a aidé, toi et ton équipe, de connaître les routes?
Oui, bien sûr, ça nous a aidé pour déjà tout ce qui est les routes sinueuses avec des virages ou les mauvaises routes. Je pense qu'à ce moment-là, à des moments, on savait quand est-ce qu'il fallait être placé ou pas pour des rétrécissements. Et puis même pour jauger un petit peu pour gérer notre effort, on savait quand est-ce qu'il y avait des difficultés ou pas et quand est-ce qu'il fallait accélérer ou gérer.
Donc, est-ce que tu as pu reconnaître le parcours des trois étapes?
Oui, non, sauf la troisième, mais les deux premières, oui. Et ça m'a bien servi, d'ailleurs.
Parfait. Et d'ailleurs, les courses U17 sont souvent d'environ 60 km. Est-ce que 84 km, c'était pas trop long pour vous?
Non, je pense pas. Il faut savoir que les cadets du Tour de l'Ain sont quand même plutôt entraînés. Donc comme tu l'as dit, il y a des futurs pros. Et donc 84 km, sachant que c'est sur le plat, que ça va très vite, je pense que pour des U17 et pour un Tour de l'Ain qui est un grand tour, c'était normal. Et puis c'est passé très vite, je pense que personne ne l'a vraiment ressenti.
Mais le club de Bourg-en-Bresse, ce n'est pas le seul club amédinois présent sur ce Tour de l'Ain. On retrouve aussi le Vélo Club Amberieu, où j'ai pu discuter avec Clément qui termine dans le groupe derrière l'échappée, en 29e position sur cette première étape. Écoutons sa réaction de l'étape et sa projection pour les étapes de montagne.
Malheureusement, cette étape, j'ai pas pu la reconnaître, mais c'est sûr que c'est un avantage de connaître les routes, d'être à domicile, c'est toujours un plus. Et par contre, l'étape 2 et 3, j'ai pu les reconnaître et ça va vraiment être bénéfique. Bah, c'était une course où il y avait de la tension, c'est sûr, donc le but c'était quand même d'éviter les chutes, vu que c'est une course où bah, il y a beaucoup de chutes, il y a de la tension, de la nervosité, donc j'ai réussi à passer entre les gouttes, entre les chutes, et puis bah, la course s'est passée quand même assez vite, on a 43 de moyenne, et puis bah, j'ai quand même essayé de me placer pour le sprint, et voilà, donc la course c'est quand même assez positif, mais c'est les étapes de demain qui vont être intéressantes, vu qu'il y a de la bosse, et on va pouvoir s'exprimer.
Alain, toi tu étais présentateur, enfin speaker, et tu présentais les équipes. Est-ce que tu as senti que les équipes étaient heureuses d'être là, et comment tu les as senties après cette première étape ?
On en a reçu, je crois qu'on a présenté 11 équipes, si je me souviens bien. Ouais, c'est l'unanimité, c'est le plaisir d'être là. C'est comme tu le disais en intro, hein, c'est le fait d'évoluer dans les conditions d'une course professionnelle. Et puis cette organisation, elle a une sacrée belle image. Donc, oui, on rêve, tous les jeunes coureurs cadets rêvent de pouvoir y participer. Je me souviens d'un coach belge de l'équipe Lotto à l'époque. Son nom est en train de m'échapper, qui fut champion de Belgique à plusieurs reprises du contre-la-montre, qui avait dit qu'il regrettait qu'à son époque, ça n'existait pas. Donc voilà, il y a le bouche à oreille. Et s'il y a une soixantaine de clubs minimum chaque année qui candidatent, ceci explique cela.
Parfait, je pense qu'on peut passer à la deuxième étape, sauf si quelqu'un veut rajouter quelque chose. La deuxième étape était réservée pour les grimpeurs, un parcours de 56 km qui a été rallongé à cause de certains problèmes sur les routes, entre Giron et la station de l'Élex-Montjura, avec le col de Mentières et la montée de l'Élex. Une étape donc très difficile, mais très classique, puisque le Tour de l'Ain a très souvent une arrivée d'étape à l'Élex. Le parcours est connu de tous, mais reste très éprouvant. C'est finalement Antoine, coureur de Talent Romandie, qui s'impose au sommet, avec son beau maillot jaune. Derrière, les coureurs arrivent éparpillés, un par un, complètement exténués. Les Suisses de Talent Romandie qui perdent cependant le maillot jaune malgré la victoire d'étape, car on le rappelle, c'est un classement général qui se base sur les trois premiers coureurs. Et malgré la victoire, les deux autres coureurs n'étaient pas assez bien placés pour garder le maillot jaune. On écoute maintenant Antoine Salamin, le coureur vainqueur de cette deuxième étape.
Oui, alors le but aujourd'hui avec l'équipe, c'était d'essayer de garder le maillot jaune et donc essayer d'en placer trois le mieux possible à l'arrivée. Personnellement, bah, je savais qu'en montagne, je tournais quand même assez bien. Donc je me suis bien placé au début de la bosse, j'étais dans les 15 premiers, je me suis très rapidement placé premier au début de la bosse. Et puis bah, j'ai mis mon rythme, je me suis mis à mon rythme pour tenir jusqu'en haut de la bosse. Ça a rapidement été écrémé, on s'est rapidement trouvé à 5, puis à 4, puis à 3. Et les deux collègues m'ont demandé de rester, qu'on reste ensemble. Et j'ai réfléchi, je me suis dit qu'avec un peu la vallée qu'il y avait après, je me suis dit que c'était mieux que je reste avec eux et puis pas que je les lâche direct. Et puis bah on a fait la descente, on collaborait très bien, et dans une petite remontée à 5 km de l'arrivée, j'ai mis mon attaque décisive et puis j'ai été au bout tout seul.
C'était donc une journée très éprouvante, très rapide, près de 10 minutes d'avance sur le temps annoncé pour ces cadets. Gabin, est-ce que l'enchaînement des bosses et la chaleur, comment tu t'es senti avec tous ces paramètres ?
Bah, certes, il faisait un peu chaud quand même, donc il fallait bien boire, bien s'hydrater. Mais je pense que j'ai quand même bien géré. J'étais pas très bien placé en bas de la grande bosse de cette étape, qui était le col de Mentières. Mais j'ai préféré y aller au train. Et puis on a doublé un paquet de gens, donc j'ai pu bien remonter dans le classement. Mais c'est vrai que c'était quand même difficile avec la chaleur qui nous a bien écrasés, surtout sur la fin, l'Élex, où c'était compliqué, c'était vraiment chaud, et puis ouais, ça m'a bien fatigué cette étape.
Donc du coup, comment t'as grimpé l'école ? T'as dit au train, donc c'est-à-dire que tu t'es plutôt mis à ton rythme et plutôt que de tenter de suivre un groupe qui t'a explosé ?
Oui, bah ouais, en fait, j'étais pas bien placé, donc si on suit les attaques, on va vite craquer parce qu'on va accélérer, puis freiner. Donc j'ai préféré y aller au train, y aller à mon rythme. Et puis en fait, avec un petit groupe qui était avec moi, donc qui a monté au train, on a réussi à rattraper une bonne trentaine, quarantaine de coureurs qui, eux, avaient préféré suivre les attaques et puis qui ont en fait explosé au bout d'un moment dans le col.
Tu arrives donc après avoir tout donné en étant complètement mort comme la plupart des coureurs. On écoute donc Camille, Léo et Maë, coureurs du vélo-club de Cise-Sionzier, qui nous racontent leur étape, leurs sensations et la difficulté de l'épreuve.
Alors j'ai trouvé ça dur parce que je ne suis pas très fort en montée. J'ai tenu jusqu'au début du gros col et après j'ai un peu lâché. Je me suis retrouvé dans un groupe derrière le peloton principal. J'ai fait un bon sprint, mais à l'arrivée, c'était vraiment dur. La montée, ça nous a bien épuisé. La descente, pareil, elle était un peu technique. Il y avait des graviers sur la route. On a fait une descente à 3. J'étais avec un gars, il était un peu fou dans les virages avec plein de graviers. Il lâchait le pied. C'était bien, mais c'était un peu impressionnant quand même.
Donc aujourd'hui, ouais, l'étape, ça s'est bien passé. Même si c'était compliqué, le plaisir il est toujours là quand on fait du vélo. Je me suis mis à mon rythme dans le col. Et après, je suis arrivé à garder le groupe pour aller jusqu'à l'arrivée dans le faux plat montant. Et j'ai fait le sprint à l'arrivée pour gratter des places quand même.
Ouais, c'est sûr que c'est une course très spéciale sur 3 étapes. J'en avais jamais fait auparavant. Les 2 premières étapes étaient déjà très dures. Je me suis bien accroché et je suis pas monté dans le camion, donc ça je suis très content. Et je pense que la 3e étape elle sera très dure. Je vais essayer de m'accrocher le maximum, mais c'est une belle expérience. Merci à toute l'organisation.
Et oui, on remercie toute l'organisation qui permet à cette course de vivre, car sans les bénévoles, on le redit, l'étape et les courses ne pourront pas se dérouler aussi bien que prévu. Donc ces membres du vélo club Cluse-Sionzier nous racontent leur étape, qui était donc très difficile. Alain, les classements ont été chamboulés, on retrouve toujours les mêmes coureurs, les mêmes équipes. Cependant, tous les maillots ont été chamboulés. Je te laisse présenter les différents vainqueurs des maillots que tu as pu présenter au public. Les maillots jaunes ont d'ailleurs eu la chance d'être présentés au public juste avant le podium protocolaire des professionnels devant un certain Bernard Hinault.
Oui, en effet, Bernard Hinault est des nôtres et ça relève un petit peu le... c'est une présence qui marque les gens quand même, c'est un monument. Hein. Donc, en effet, ce sont les Belges, ils sont flamands, hein, Dagrog Tormans, qui ont revêtu le maillot jaune. Le maillot à poids de la montagne, c'est la mode Servolex, les coureurs de Savoie. Le maillot vert pour les Alsaciens du vélo club Eckversheim. Et puis le bleu, là, qui en théorie va au vainqueur de l'étape, il est allé au 4e en fait, comme on ne cumule pas. Et ce sont les garçons du Sprinter Club Bourg-les-Valence qui ont donc eu aussi le plaisir d'être mis en évidence face au public.
On a dit, comme je l'ai dit, Bernard Hinault était présent sur scène. On t'a vu très ému, Alain, peux nous raconter
pas très ému, non, mais en lui tendant le micro, je suis toujours très prudent, donc voilà, je voulais avoir ses sentiments, mais lui, il appréciait le comportement des jeunes, et puis il souhaite que les jeunes français tirent profit d'une expérience comme le Tour de l'Ain U17, parce que, comme il a dit en conclusion, je cite, « on a besoin de champions », fin de citation.
Oui, donc c'est pour ça qu'il vient sur cette course pour tenter de chercher la nouvelle pépite qui sortirait du Tour de l'Ain. Donc du coup, les nouvelles pépites, en tout cas pour l'instant, ce sont les Belges Dagrog Tormans qui récupèrent le maillot jaune. Je le répète, mais c'est l'équipe de développement de la Soudal Quickstep, une équipe World Tour, une des meilleures équipes du monde qui compte dans ses rangs le champion du monde de contre-la-montre et l'ancien champion du monde, Julien Alaphilippe, pardon. Elle prend donc le pouvoir sur cette 2e étape avec une 2e place sur l'étape et plusieurs coureurs dans le top 20. Une équipe dominante, mais tout reste à faire pour remporter le maillot jaune, puisque la 3e et dernière étape est très compliquée, très vallonnée, très compliquée, et puis il fait surtout très chaud. En plus de ça, on retrouve un Antoine, vainqueur d'étape, comme on l'a déjà dit, qui est surmotivé pour la dernière étape. On écoute ses ambitions pour le 3e jour.
Bon, si je pourrais faire la même chose qu'aujourd'hui, ça serait magnifique. C'est quand même un petit peu moins dur demain, parce qu'il y a moins de cols. Donc le parcours est un petit peu moins dur, mais ce sera quand même très sélectif. Il commence à avoir beaucoup de fatigue dans les jambes avec 2 journées. Donc le but demain, ce sera essayer de regagner l'étape.
Une étape, donc une 3e étape, donc on peut commencer à en parler. La 3e étape, c'est donc la dernière étape de ce Tour de l'Ain. Elle reliait la commune de Poncin à Ilchambault. L'inverse, elle relie... Non, elle partait de Poncins pour aller à Ilchambeau, pardon, pour un total de 60 km et 1154 mètres de dénivelé positif, ce qui est plutôt énorme pour des cadets. Trois bosses, la côte de Matafelon, la côte de Corvessia et surtout le col de Bertian. Une boucle très compliquée et usante car les coureurs n'ont pas eu une minute de répit. Pourtant, on a eu une différence majeure au départ. Les U17 sont partis après les professionnels, car les pros effectuaient deux fois le parcours U17 et certains de l'organisation avaient peur que les pros rattrapent trop vite les U17. Donc c'est la raison pour laquelle les U17 sont partis juste après les professionnels pour ne pas se faire attraper par les professionnels. Une différence minime mais qui aura finalement son importance, vous le verrez. Donc comme d'habitude, le départ fut très rapide, trop rapide surtout, puisqu'ils ont été arrêtés. On écoute Evan du Vélo Club Saint-Quentin-Falavier qui nous explique les raisons de cet arrêt forcé.
Ouais, donc le peloton était encore groupé et puis on venait un peu de partir, on était kilomètre 14. Puis d'un coup, ça s'est arrêté parce qu'on roulait trop vite, on était trop proche de la voiture balai des pros. Et puis on est resté quand même arrêté un bon petit moment, je pense 10-15 minutes.
Oui, donc ces jeunes qui ont rattrapé la voiture balai des professionnels qui n'allaient pas assez vite parce que c'était le départ de l'étape des cadets et qu'ils n'avaient que 60 km à faire. Donc certains ont voulu directement accélérer alors que les pros avaient près de 150 km à effectuer. C'est pourquoi ils sont partis plus doucement et ils ont moins accéléré dès le départ. C'est donc une situation assez lunaire que nous avons vue. Ils ont dû être arrêtés à deux reprises pour un total de plus de 20 minutes. Gabin, au sein du peloton, comment vous avez réagi? Tu as ressenti de la frustration, de l'incompréhension? Explique-nous.
J'étais un peu frustré parce que quand on est parti avec l'équipe de l'ECBB, on était plutôt bien placé, donc on avait bien réussi à se replacer. Puis le fait de s'arrêter la première fois, je savais pas pourquoi. On nous a pas trop expliqué. C'est reparti très vite. Et puis quand on s'est arrêté la deuxième fois, on s'est arrêté très longtemps, donc on savait toujours pas pourquoi. Ils nous ont enfin expliqué à la fin, juste avant de partir. Mais ça nous a un peu cassé les jambes, donc j'étais frustré, puis ça m'a un petit peu énervé. Mais en soi, ça s'est bien passé, il n'y a pas trop eu de risque à cet arrêt un peu prolongé.
Oui, car les voitures ouvreuses du Tour de l'Ain U17 ont commencé à rattraper la voiture balai, ils étaient donc collés, on a donc un risque si un cadet accélère, qu'il rattrape la voiture balai et donc soit gêné par la course des professionnels. C'est donc, un peu lunaire, cette situation, puisque c'est très rare. C'est la raison pour laquelle les cadets partent souvent avant les pros. Mais dû à la boucle que les pros ont dû effectuer deux fois, c'est la raison pour laquelle les pros sont partis avant. Et donc, on a eu des rattrapages, des coureurs qui rattrapaient la voiture balai. Donc, après cette pause imprévue, les coureurs ont grimpé les différentes bosses du parcours jusqu'au terrible col du Bertian, où un des maillots jaunes, Sander Willems, a décidé de placer une attaque décisive pour se défaire du peloton. Il passe au sommet du col avec 35 secondes d'avance sur un groupe composé de 8 unités. Derrière, les petits groupes s'enchaînent et les coureurs arrivent à bout de force, au sommet. Mais dans la descente ultra rapide du col, où certains ont atteint les 100 km/h, le coureur belge ne sera jamais revu. Il s'impose devant le peloton qui vient échouer à une minute du coureur. Gabin, ta pointe de vitesse dans la descente, t'as regardé?
Ouais, j'avoue que j'ai regardé. Je crois que j'ai fait 89. Donc j'avoue que j'ai fait mon record. Il y en a qui disaient que c'était dangereux. Moi, je trouve pas parce que c'était quand même une ligne droite. Mais c'était difficile d'y tenir parce que ça va vite quand même. Et puis, ils pédalent bien devant donc pour les suivre. C'est difficile.
Tu finis donc pas loin du tout parce que tu fais une super bonne place, une super bonne étape. Explique-nous comment tu t'es accroché.
Ouais, comme je le disais, déjà je suis parti bien placé, donc ça m'a bien aidé parce que au pont de Cise, c'est un pont qui est très étroit où le peloton s'est étiré juste avant une bosse. Et donc toutes les personnes mal placées à l'arrière du peloton ont subi une grande accélération. Alors que moi, ça allait, j'ai pu rester dans le peloton. Je me suis bien accroché à Matafelon où j'ai quand même failli craquer. Et puis au Bertian, c'est là où le peloton a un peu explosé, mais j'ai plutôt préféré faire comme la veille, donc monter plus au train. Et puis encore une fois, j'ai quand même doublé une bonne vingtaine de personnes avant de rester dans mon groupe définitif jusqu'à la fin de l'étape.
Oui, parce que j'étais en haut du col du Bertian, le premier est passé très très vite, et derrière le peloton a suivi pareil à un rythme effréné. Mais derrière, c'était très désorganisé, on retrouvait des coureurs qui n'avançaient presque plus, qui étaient complètement cuits. Puisque la plupart ont essayé de suivre des rythmes qui était trop élevé pour eux. Et c'est pourquoi le col du Berthier ne leur a pas pardonné. Et ils ont complètement explosé à la fin, puisqu'ils n'avançaient quasiment pas. Les groupes qui arrivaient derrière allaient bien plus vite qu'eux. Pourtant, Gabin, tu fais une bonne place, mais tu devais être très fatigué. Comment étaient les jambes à la fin du troisième jour? Et est-ce que tu as ressenti de la fatigue lors de cette dernière étape?
Oui, bah bien sûr, oui, j'étais fatigué, mais les jambes, ça allait. Bah, faut savoir quand même qu'on essaie, on a des petites techniques, on va dire, pour mieux récupérer. Donc, ça nous permet d'avoir des jambes à peu près fraîches dès le matin. Mais ouais, j'étais fatigué, ça commençait à être dur psychologiquement aussi de tenir et de s'accrocher au peloton. Mais j'ai eu quand même beaucoup d'encouragement. J'ai eu des petites pancartes aussi à mon nom, un petit virage à mon nom. Et puis, bah, bien sûr, ça pousse, l'émotion qui fait qu'on a envie de se dépasser. Et ben, ça m'a tiré que du positif sur cette troisième étape, en tout cas.
Un virage à ton nom, comme les plus grands coureurs. Tu finis sur une bonne note. Quelle conclusion tu tires sur ce Tour de l'Ain, sur ces trois étapes?
Bah, j'ai vraiment aimé. C'est une super expérience de faire un si gros tour à un âge plutôt jeune. On avait une très bonne ambiance, nous, dans notre équipe. Donc j'ai bien aimé parce qu'on rigolait, ça nous permettait de nous détendre. Et puis ouais, c'est pas du tout une même ambiance, la même ambiance au sein du peloton. C'est un peu plus compétitif, puis on court quand même contre des cyclistes à un niveau international. Donc non, j'ai bien aimé, ça m'a bien fait l'expérience, je pense.
Alain, tu avais une question?
Une petite question, Gabin. Trois jours, c'est bien. Est-ce que tu auras vu d'un quatrième jour? Parce que je te pose la question, parce que j'ai regardé les classements individuels et je vois que chaque jour tu progresses. La dernière étape, elle a été vraiment, vraiment excellente. Un quatrième jour, peut-être qu'on t'avait sur le podium.
Oui, bah, c'est ce que je me suis dit. Oui, je me disais bah, peut-être que j'ai une meilleure capacité à récupérer. Ça peut être ça aussi. C'est comme ça que les meilleurs coureurs du Tour de France se démarquent, hein, qui récupèrent mieux, ils ont des meilleures jambes chaque jour. Et ouais, peut-être qu'un quatrième jour aurait été pas mal parce que, comme tu le dis, plus ça allait, plus je montais dans le classement. Et chaque matin, j'avais pas l'impression d'avoir fait une course la veille quand même. J'avais bien récupéré. Mais après, il y a quand même la fatigue qui s'accumule. Donc j'aurais peut-être aussi pu exploser à un moment ou à un autre.
Ouais, mais les adversaires aussi.
Les adversaires aussi, ouais. Ça se joue à la tête aussi un petit peu.
Alain, tu dis ça parce qu'avant, on retrouvait 4 jours. Même peut-être 5. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroulaient les éditions?
J'ai plus les années, mais oui, il y avait 4 jours. Et puis parfois, il y avait même 5 jours, puisque la première soirée, c'était un contre-la-montre par équipe, ce qui était formidable. Après, il y avait le contre-la-montre individuel des professionnels. Et ça donne un charme. Et un contre-la-montre par équipe, c'est très, très intéressant. Je ne sais pas si toi, non, tu n'as pas eu l'occasion de le faire, Adrien. Mais ça donne une cohésion entre les coureurs. Et ça resserre les liens encore plus fort d'entrée. Après, avec 3 ou 4 jours derrière, c'est bien. Mais bon, il y a le budget, il y a plein de choses qui entrent en jeu. C'est compliqué, quoi.
Ouais, un contre-la-montre par équipe, moi, je n'avais pas eu l'occasion d'en faire. Mais ce n'est pas forcément un truc que j'aurais apprécié parce que ce n'est pas vraiment l'une de mes qualités. Ce n'est pas vraiment le plat. Gabin, tu aurais
aimé,
ça
serait bien, oui, je te coupe, puisqu'on l'avait eu il y a quelques années au Grand Colombier. Donc, toute la deuxième partie de la montée du Colombier côté culot, contre la montre par équipe, c'est génial aussi. Ça t'aurait plu, toi, je sens?
Ouais, moi, je pense que ça m'aurait plu. Bah déjà, j'aime bien la montagne. Après, si je suis bon ou pas, ça dépend des jours. Mais ouais, ça m'aurait plu parce qu'une montée comme ça, j'aime bien monter au train. Et puis dans les montées où il y a beaucoup de public au bord des routes qui nous encourage, je pense que ça m'aurait plu, ouais.
Donc, cette troisième étape qui se termine bien pour tout le monde. Alain, est-ce que tu peux nous présenter encore une fois les différents vainqueurs des maillots et des différents classements?
Oui, je regarde mes notes là. Le maillot jaune, donc ce sont les Belges, hein, vraiment très forts, avec le coureur 72, Willems, donc à Croque-Tormance, qui a eu, enfin, les 4 équipes ont été récompensées en même temps que les professionnels. Alors tout le monde a vraiment été mis en évidence. Donc on avait commencé avec le maillot vert, hein, le sprint 2000 de Charleroi, une équipe belge. Le maillot bleu, ben, c'est encore la mode Servolex, qui est toujours très bien placée. Le maillot à pois, eh bien, ce sont les Alsaciens du vélo club Egversheim qui, une nouvelle fois, l'ont obtenu. Et le maillot, qu'est-ce que j'ai oublié là? C'est le maillot. C'est le maillot vert, voilà. Non, j'ai bien dit les 4 là.
Oui, c'est bon, tout va bien. Ouais. Donc, le maillot vert, tu l'as dit, qui revient au sprint 2000 Charleroi, une équipe qui porte du coup bien son nom, puisqu'il remporte le sprint de la combativité avec Matteo. Matteo qui a répondu à mes questions et qui fait gagner son maillot à toute l'équipe. On écoute son analyse, son ressenti global et ses futurs objectifs sur le Tour de l'Ain U17, puisqu'il faut savoir que c'est un 2009. Il pourra donc participer à l'épreuve l'année prochaine avec son club.
On n'avait pas vraiment de stratégie, mais on savait que le maillot vert, on pouvait aller le gagner parce que la victoire d'étape, c'était un peu trop dur pour nous. Donc je suis parti en échappée au tout début et j'ai vu le sprint intermédiaire pour le maillot vert arriver, donc je l'ai fait et je l'ai gagné. Les deux premières étapes, j'étais inexistant. J'ai pas fait des très bonnes étapes, mais je suis un peu revanchard et aujourd'hui, je savais que j'avais envie de faire quelque chose. C'était une étape très dure et hier j'ai même pas tenu dans la bosse, donc je savais que j'allais pas aller au bout. J'ai vu le maillot vert qui était jouable, donc je l'ai fait et pour moi mon arrivée elle c'était au sprint intermédiaire pour le maillot vert, parce que après c'était fini.
Et donc le Tour de l'Ain, t'en tires une bonne conclusion?
Oui, bien sûr, hein, c'est quand même bien d'être ici et ça te donne de l'expérience pour les montagnes et autre chose.
Du coup, tu reviens avec le maillot vert pour une première année. L'année prochaine, ça serait quoi les objectifs?
Déjà d'être sélectionné pour revenir et peut-être essayer de jouer une victoire d'étape ou un peu plus haut encore.
Ces équipiers belges du sprint Charleroi 2000 ont également répondu à mes questions. On écoute le ressenti de ces équipiers Sacha et les explications de Thomas et Romain sur cette troisième étape.
Premier jour, c'était une belle étape, assez plate. Je fais au sprint 22e avec une échappée devant de 9 coureurs, je pense. Et après, deuxième jour, j'avais un jour sans jambes, je fais 64e. Et là, aujourd'hui, je me sentais super bien, sauf que dans la fin du deuxième col, j'ai déraillé. Du coup, j'ai pas su revenir correctement, mais j'ai su finir l'étape correctement aussi.
Au début, on a eu deux neutralisations, donc c'était un peu chiant parce qu'après, on a assez mal aux jambes quand on redémarre. Puis j'ai passé les deux premiers côtes col dans le bon groupe. Puis j'ai un peu eu du mal dans le dernier col. Donc ça va, je suis quand même assez content de moi.
J'étais un petit peu mieux qu'hier. Mais j'ai réussi à m'agripper dans le premier col. Mais dans le deuxième col, j'étais à l'arrière du peloton. Et je me suis fait décrocher avec un groupe.
Une étape qui aura quand même fait des dégâts avec l'arrêt des coureurs à plusieurs reprises, la difficulté des bosses et le rythme du peloton. On écoute le débriefing de Jules, coureur du Villefranche en Beaujolais, et Ronan et Charlie du club de Corba Lyon Métropole. Charlie qui était d'ailleurs échappé sur cette dernière étape et qui a joué le maillot vert.
Ouais, c'était compliqué d'abord parce que les débuts c'était vachement pentu et tout. On rattrapait les échappés, y avait des morts de partout et ça roulait vite, vraiment vite.
C'était dur. Il y a du niveau, du level, grosse moyenne sur les 3 jours. Il y a du D+ aussi, ça monte vite. Puis, ouais.
L'objectif de la journée c'était essayer de prendre, de gagner le sprint pour le maillot vert. Donc on voulait aussi être actif dans la course. Et début de course, j'ai vu qu'il y avait moins de sortir. Donc j'ai vu qu'il y avait deux mecs devant. J'ai attaqué pour revenir sur eux et on a fait le trou direct. Et puis après, c'était parti. Bon, après, il y a eu le petit incident, on s'est arrêté, mais on s'est pas fait rattraper assez tard en vrai. Mais en vrai, dommage, le sprint inter, il avait été pas trop bien signalé. Mais à part ça, en vrai, c'était cool.
Et oui, du coup, Charlie qui a été rattrapé et doublé par Matteo pour le sprint intermédiaire, il ne repart donc pas avec le maillot vert, malheureusement. Mais certains coureurs ont aussi évoqué la chaleur. Gabin, est-ce que la chaleur a eu un impact sur toi sur ce troisième jour et puis sur le Tour de l'Ain en général?
Sur moi, pas trop, non. En fait, fallait bien s'hydrater, bien s'arroser. Mais c'est vrai qu'il y a des coureurs qui craignent beaucoup la chaleur, donc ça peut vite nous ralentir. J'ai un coéquipier qui craint un peu la chaleur et qui m'a quand même bien battu sur la première étape et puis sur les deux autres en montagne où il a eu un peu de la peine avec cette chaleur, oui. Mais voilà, quoi, ouais, l'hydratation est quand même essentielle dans ces tours sur 3 jours où le corps il a besoin... S'hydrater.
La chaleur qui était bien présente, plus de 30 degrés en haut du Bertian, parce que j'avais calculé la météo, puisque j'étais sur le sommet, en train de mourir de chaud, et je me suis rendu compte que oui, près de 31 degrés au soleil. Donc j'étais en haut du Bertian pour calculer les temps d'arrivée en, au sommet pour le maillot à poids. C'était donc très impressionnant, les coureurs montaient extrêmement vite. Voilà, le premier qui gagne, Willems de Akroktorman, il grimpe à un rythme effréné, on aurait cru qu'il était dans un peloton pro. Mais on a eu également un autre arrêt en haut du Bertian. Certains coureurs ont dû être encore une fois stoppés en haut du col par l'organisation des professionnels, puisque les pros, je le rappelle, effectuaient deux fois le circuit U17. Ils étaient donc en train de rentrer sur la voiture balai de U17. Les voitures des pros étaient en train de rentrer sur la voiture des U17. Et on avait donc un risque que certains pros rattrapent les voitures et soient gênés et dérangés. Donc les coureurs ont été arrêtés. On avait également un risque qui tombe dans la descente du Bertian, puisque comme Gabin l'a dit et comme on le rappelle, la descente était extrêmement rapide. Gabin qui a atteint presque 90 km/h. Donc cette descente contenait des risques et certains coureurs auraient pu tomber et donc les ambulances auront été appelées et cela aurait été très compliqué de gérer les professionnels et l'ambulance en même temps. C'est pourquoi l'organisation a décidé d'arrêter les cadets en haut du Bertian. Certains étaient plutôt frustrés mais puisqu'ils ont dû attendre près d'une heure, mais au final cet événement c'était un événement plutôt joyeux puisque les coureurs ont pu observer et voir la course des pros. Les pros ont donc eu un virage en haut avec tous les cadets qui étaient arrêtés et tous les parents qui étaient présents en haut du Bertian pour donner des bidons. Ils ont donc été encouragés un maximum. Cela a un peu chamboulé tous nos plans pour cette fin d'étape, mais au final ça s'est très bien passé et ça reste un bon moment pour tout le monde. Je ne sais pas toi Alain comment tu as vécu ça sur le podium, mais j'ai ressenti énormément de joie et de fierté chez les U17 à la fin de cette troisième étape. Explique-nous comment ils étaient lors des présentations des équipes et des podiums.
Oui, c'était très bien puisque Gabin disait tout à l'heure qu'il était fatigué. Mais moi, j'ai le souvenir, je t'ai vu franchir la ligne avec un petit sourire. Donc finalement, c'était heureux de réussir une performance, heureux de finir, ouais, on ne sait pas trop quoi.
Heureux de finir parce que j'étais bien fatigué puis... Heureux d'avoir fait une jolie étape parce que cette troisième étape, c'était quand même clairement ma meilleure étape. Et puis j'avais un petit peu d'encouragement sur cette fin d'étape qui m'a fait sourire quand même. Avec
C'est important d'avoir les copains. Et
c'est
puis,
ça, un petit fan club qui vient nous repousser.
Ah ouais, on a senti une excellente ambiance. Et puis c'était joli, les 300 derniers mètres en montée.
Qui font mal quand même.
Ça fait mal, mais c'est beau, c'est chouette. Et ouais, il y avait quand même pas mal de monde au pied du podium après. Et puis, il y a un plus au niveau du Tour de l'Ain, on a quand même un plus, c'est la présence de Daniel Mangin, c'est absolument extraordinaire. C'est un personnage qui est unique, c'est quelqu'un qui sait aussi s'exprimer au moment où les cadets passent. Et pour vous, les jeunes, Daniel Mangin, ça vous dit sûrement quelque chose, c'est obligatoire. Mais vos parents et les grands-parents, eux, c'est le dieu, quoi. C'est la voix du cycliste, c'est le grand bonhomme qui a un grand respect pour tout le monde. D'ailleurs, si vous avez fait attention, à la fin de la cérémonie protocolaire, il a pris une dernière fois la parole pour mettre à l'honneur tous les bénévoles en précisant bien que sans bénévoles, il n'y aurait pas de compétition sportive. Et ça, ils ne sont pas nombreux, les gens qui en parlent. Hein. Même aucun politique n'a employé cette phrase, mais Daniel Mangin, il pense vraiment à tout. Il est là pour les coureurs, les partenaires, toutes les catégories et puis tous les invisibles sans qui rien pourrait fonctionner. Comme toi, Adrien, avec Daniel, avec Laurent, quand on gère des parkings, chapeau quoi. Parce qu'on se fait engueuler une bonne douzaine de fois par matinée. Voilà, c'est bien quoi. Mais après tout, ça dure pas. Hein. À la fin, tout le monde est de bonne humeur, tout le monde est revenu copain et puis. Vive le vélo, comme disait l'autre.
Ouais, voilà, c'est ça. Comme l'avait dit un parent que j'avais, à qui j'avais parlé, le vélo, c'est une grande famille. Et même si au parking, on a été un peu dérangé par certains parents qui voulaient vraiment se mettre à telle position alors qu'ils n'avaient pas le droit, ou par certains élus de certaines villes, ça s'est plutôt bien passé. Tout le monde était heureux. Donc oui, c'était vraiment trois étapes vraiment folles. Et je pense qu'on peut passer du coup à cette dernière partie, la conclusion. Donc cette course, elle permet aux plus jeunes de s'approcher pendant quelques jours du monde professionnel en les mettant dans les mêmes conditions que les coureurs pros, avec les mêmes installations que les pros, la présentation des équipes, des coureurs qui viennent du monde entier. Et puis c'est aussi un moyen de côtoyer les pros puisque la caravane et les pros arrivent quelques minutes après le U17 et les maillots jaunes ont eu l'honneur de voir les maillots de leader remis par Bernard Hinault, comme je l'ai dit auparavant. Donc c'est un énorme privilège. En plus de ça, tu l'as dit, lors de la dernière étape, les différents maillots étaient présentés juste avant les pros. Donc tous les journalistes, tout le public étaient présents pour les voir et pour les acclamer.
Oui, on nous a même retardé un petit peu la présentation. C'est l'ami Vincent, qui est le coordinateur d'Eurosport, qui était en interview. Donc on faisait trop de bruit, il y avait trop d'ambiance. Donc on lui a rendu service. Mais il y avait, ouais, il y avait du monde, c'était sympa, c'est vraiment sympa.
Et du coup, Gabin, toi, quel est ton ressenti après ce Tour de l'Ain? Qu'est-ce que t'en as pensé de ce Tour de l'Ain U17?
Ah bah, moi, j'ai adoré. Personnellement, on avait une équipe fusionnée, il y avait un bon esprit d'équipe. Donc ça s'est très bien passé. Puis même si j'ai été peut-être déçu sur quelques étapes, ça m'a quand même permis de me rendre compte que c'était le Tour de l'Ain, quoi, avec cet énorme peloton de 150 coureurs. C'est quand même nouveau pour nous, parce que quand on fait des courses de village ou de ville, on dépasse pas souvent les 80 coureurs. Et puis, ça fait des étapes aussi montagneuses, avec des cols. C'est très différent d'habitude. Et moi, j'ai adoré.
Oui, tu l'as dit, c'est très différent d'habitude. J'imagine que tu as fait beaucoup de courses cette saison. Est-ce que tu peux nous expliquer si tu vois des différences entre une course classique en circuit et ce Tour de l'Ain?
Oui, bien sûr. Déjà, il y a le placement qui joue beaucoup, parce qu'on est 150 coureurs, donc si on est placé tout à l'arrière du peloton, on appelle ça l'effet élastique, donc le peloton, quelquefois avec des routes sinueuses ou des bosses, peut s'allonger et se rétrécir d'un coup, donc ça fait des à-coups. Et puis, c'est pas du tout la même dynamique de course, donc comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a presque des équipes pro, en gros U17, et qui ont des gros niveaux, et donc c'est pas du tout les mêmes tactiques, la même dynamique de course, ça envoie, on va dire.
Ouais, voilà, c'est ça, comme certains l'ont dit, il y avait une stratégie derrière, alors qu'en circuit, c'est plutôt, on appuie fort sur les pédales et on essaie d'aller le plus vite possible, il n'y a pas vraiment de stratégie, c'est surtout le plus fort qui gagne. Mais donc du coup, tu l'as dit, tu as profité de nombreux encouragements, tu as eu des pancartes à l'Elex, beaucoup d'encouragements au haut du col du Bertian. Est-ce que ça t'a aidé à te surpasser?
Bien sûr, ça m'a aidé. Je pense que c'est ce qui m'a aidé, oui, à tenir à la fin du col de Mentières, parce que j'étais quand même presque ému, en fait, de voir plein de pancartes juste pour moi, avec plein de personnes qui m'encourageaient. Et puis j'étais dans les trois premiers de mon club, donc ça veut dire que je comptais pour le classement, donc j'avais quand même une petite pression. Et j'ai pu surpasser mes limites grâce à ça quand même, je pense.
Il y avait donc énormément de monde sur les bords des routes, comme tu l'as dit et comme on l'a dit. J'aurais donc profité pour interroger certains parents du vélo club de Montbéliard, puisque j'ai eu du temps à perdre en haut du col du Bertian où j'ai été retardé. Ils nous racontent le rôle qu'ils ont joué dans ce Tour de l'Ain U17 et ce qu'ils ressentent en voyant leurs enfants se dépasser.
Avant tout, bonjour. Alors, on est présent sur cette course parce qu'on accompagne nos enfants et qu'en même temps, on est un peu là aussi au point de vue logistique. Et puis, on est là pour ravitailler au point de vue bidon, vu que le DS, il est sur la course avec la voiture, avec le mécano. Donc, on est là pour filer le coup de main. Voilà.
On est super fiers. Nous, c'est la première fois qu'on accompagne sur un tour, alors qu'on est souvent sur les routes pour voir le Tour de France et les tours régionaux. Donc, c'est vraiment une super ambiance. Les gamins se donnent un maximum. On a la chance de voir aussi des pros. Et du coup, on les soutient. On a un gros soutien pour eux. Et on est très heureux qu'ils puissent vivre une telle expérience.
Une grande fierté pour ses parents qui qualifient même le travail et leur aide comme normal, car le monde du vélo est une grande famille. En parlant de famille, est-ce que Gabin, ce tour, t'a aidé à, où tu as passé tes journées avec tes coéquipiers et ton staff, t'a aidé à développer un esprit d'équipe?
Oui, bien sûr. L'esprit d'équipe, je pense qu'il était déjà développé dans notre équipe. On était quand même bien tous amis. Mais c'est vrai qu'on avait un staff super à l'ECBB. C'était bien organisé. Ça nous permet, en fait, c'est presque comme les pros, on fait notre course et puis après, c'est le staff qui s'occupe de nous. Donc ça nous permet d'avoir des soirées confortables quand même, sans rien faire un peu. Et puis avec les coéquipiers, bien sûr, ça je pense que ça change la donne si on s'entend bien ou pas avec les coéquipiers, parce que là, ça nous a permis quand même des fois de se décontracter parce qu'on rigolait ensemble. Ou même pendant les courses, c'est bien aussi de communiquer. Et on a pu aussi remonter en groupe dans le peloton des fois pour se replacer. Ça a été intéressant, je pense, quand même, de cet esprit de groupe.
Oui, Alain, tu pourras confirmer, mais sur place, on avait l'impression que les coureurs, c'était une bande de potes qui, qui s'amusaient ensemble. On voyait sur la communication des réseaux, puis même sur place, énormément de joie et juste des gens heureux.
Ouais, puis les parents, c'est important là aussi. Depuis quelques années, au fil des années, ils sont de plus en plus nombreux à accompagner, parce qu'il y a 15 ans, 20 ans, il y avait le club, les coureurs, point à la ligne. Et au fil des ans, les gens viennent de plus en plus, donnent la main, comme l'ont dit les deux personnes là, de Montbéliard. Et puis ça crée des liens très forts aussi. Après, on peut garder... moi, je me souviens, en 2013-2014, il y avait les Enfants Terribles de Marchevolette. Les parents étaient là, on a sympathisé... Moi, j'ai l'occasion d'aller à Namur plusieurs fois l'hiver pour le cyclocross. On se retrouve, c'est super bien. On a l'exemple aussi de quelqu'un que tu as vu hier, qui s'appelle Jacques Beauve, qui était directeur sportif du Vélo Club Ardennes. Maintenant, Jacques, il est passé dans un grand club espoir qui s'appelle Mini Discard, du côté de Liège, où il est directeur sportif. Mais il est venu passer une semaine avec nous en pur bénévole. Certains vont en vacances, lui vit en bénévole pour se retrouver. Les liens sont de plus en plus solides entre les personnes.
Oui, c'est clair que moi, je pense que mes parents m'ont bien aidé. Enfin, mes parents et ma famille m'ont bien aidé pendant ce Tour de l'Ain. Déjà, que ce soit pour me soutenir un petit peu psychologiquement. Et puis oui, les parents, ils étaient toujours en train de nous soutenir. Ça soit par exemple pour les ravitaux, ils nous donnaient des bidons. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de parents au bord des routes. Et ça fait super plaisir d'entendre plein d'encouragement juste pour nous, quoi. On a l'impression d'être professionnels alors qu'on n'est qu'en U17 pour l'instant.
Oui, énormément de parents, parce que vu que je gérais les parkings, j'ai vu énormément de voitures de parents qui venaient. Surtout énormément de Belges qui ont fait un trajet depuis la Belgique. J'ai même vu des gens qui venaient du Pays-Bas et même des gens qui venaient du Royaume-Uni pour supporter sûrement des amis ou des coureurs. Donc ouais, énormément de gens qui viennent, oui, de l'Europe entière, quoi.
Ah ouais, moi, je suis abonné au journal L'Avenir, qui est un journal belge. Régulièrement, des jeunes coureurs font allusion au Tour de l'Ain. Maxence Place, qui devait courir à Charleroi, il me semble, il y a quelques années, qu'on a revu sur le Tour du Val-Roberge Junior. Dans les interviews, il glisse toujours une petite phrase sur le Tour de l'Ain lorsqu'il était cadet. Donc, c'est un compliment pour l'organisation et puis ça montre la valeur de l'épreuve.
Oui, cette organisation, tu l'as dit, qui était très importante. Donc ce Tour de l'Ain a été rendu possible par les bénévoles, mais aussi par les partenaires de la course U17. J'ai d'ailleurs pu en écouter certains, des partenaires indinois, qui expliquent les raisons pour lesquelles ils ont décidé de venir sur cette course.
Alors, on est sur le Tour de l'Ain U17, notamment pour faire découvrir aux jeunes coureurs, catégorie cadet donc, qui sont sur une course de très haut niveau, course internationale, très référencée en discutant avec tous les directeurs sportifs des clubs. Et donc on met à disposition cette année en dégustation les produits que la société Chrysler distribue avec une gamme spécifique pour les sportifs qu'on appelle le trio gagnant et qui permet donc à tout sportif, donc en particulier aux jeunes dont on a eu des retours sur leurs difficultés pour s'alimenter, ce sont quand même des jeunes ados, c'est pas toujours facile. Et donc là, on a aussi bien du solide avec des barres gourmandes qu'un repas, tout simplement, qui est à préparer, qui s'appelle le Smart Repas. Et on a des boissons isotoniques. Une boisson isotonique qui est vraiment spécifique à prendre pendant l'effort intense du sportif. Et une autre boisson isotonique qui est vraiment spécifiquement élaborée pour la récupération après l'effort.
Alain, je te laisse présenter les classements finaux du coup de ce Tour de l'Ain U17.
Oui, c'est vrai qu'on parle des étapes, mais on va parler du classement final parce que malheureusement, la presse écrite a oublié d'accorder au Tour de l'Ain U17 l'importance qu'il mérite, mais c'est comme ça. Donc, au classement final, on l'a compris, vous l'aurez compris, chers auditeurs, ce sont les Belges d'Acroque-Tormance qui se sont imposés. Deuxième, le Vélo Club d'Ekerversheim. Troisième, la Mode Servolaise Cyclisme. Quatrième, Westland, ce sont des Hollandais. Cinquième, le Sprinter Club Bourg-les-Valence. Sixième, d'autres Néerlandais, ceux d'Amstel. Septième, le Vélo Club Saint-Quentin-Falavier. Huitième, les Suisses de Talon-Romandie. Neuvième, C2S, Cessin-Cessinet. Dixième, le Team Géotherme Carbonike Marchevolette. Onzième, l'Union Cycliste Briochine. Douzième, les nouveaux venus, les Portugais de la banlieue de Lisbonne, du GDM. Treizième, le cycle Golbea. 14e JEG DJR Academy, venu des Pays-Bas également. 15e le CC Nogent-sur-Oise. 16e l'Amicale Cycliste Bisontine. 17e Corbas-Lyon Métropole. 18e le Vélo Club de Montbéliard. 19e l'École de Cyclisme de Bourg-en-Bresse, premier club adinois. 20e Vélo Club Villefranche-Beaujolais. 21e Sprint 2000 Charleroi. 22e l'Équipe Nationale du Luxembourg. 23e Vélo Club Ardennes, 24e Espoir Cycliste Saint-Étienne-Noir, 25e l'Union Cycliste Gessienne, 26e le Vélo Club Wittenheim, 27e les Italiens d'Esperia, 28e le Team Sport Lycée, également une équipe luxembourgeoise, 29e Vélo Club Cluse-Sionzier, 30e Paris Cycliste Olympique et 31e Vélo Club d'Ambérieu.
Et oui, Ambérieu qui a eu des problèmes du coup dans la fin avec la dernière étape qui leur a été fatale avec plusieurs problèmes, notamment dus aux arrêts. Donc avant de conclure cette deuxième édition de cette chronique sur le Tour de l'Ain 17, j'aimerais remercier tous ceux qui ont permis le bon déroulement de cette course, que ce soit les bénévoles qui se démènent pour permettre à la course d'avoir lieu, que ce soit ceux au parking, dans les voitures ouvreuses ou dans les voitures balais, ceux qui gèrent les différents chronos et qui font les classements, Victor, le photographe, les signaleurs qui sécurisent les coureurs, les familles venues encourager leurs enfants, mais aussi les directeurs sportifs et les coureurs qui font la course. Toutes ces personnes ont permis à la course de se dérouler dans des conditions optimales, donc je tenais à vous remercier. On a eu cette année un Tour de l'Ain calme et sans problème majeur, d'après le directeur de la course, Ludovic Dubois, donc je tenais à féliciter tout le monde. Avant de finir, Alain, j'avais une question pour toi. Qu'est-ce qui te pousse, après toutes ces années, à continuer à faire le Tour de l'Ain U17 ?
Excellente question. Excellente question. On est dans une famille, comme tu l'as dit, en gros. Et ma foi, tant que j'ai la confiance de Ludovic Dubois, de Christian Perrichon, qui sont quand même nos locomotives, eh bien, c'est un plaisir de continuer, puis avec toute l'équipe. Parce que c'est vrai qu'on les a pas cités, hein, mais il nous reste 4 minutes, on va quand même, je pense, les mettre à l'honneur, Ludovic Dubois et Christian Perrichon, qui, eux, ils abattent un travail phénoménal tout au long de l'année pour préparer ce Tour de l'Ain 17, et c'est pas facile, hein. On ne va pas raconter les péripéties, mais c'est compliqué dans les réunions. Il faut vraiment défendre les plus jeunes. Le Tour de l'Ain U17, c'est un super train. C'est plein de wagons avec plein de pépites d'or dedans. Mais le train, pour qu'il avance, il faut des locomotives. Et puis, elles sont puissantes, ces deux locomotives que sont Ludovic Dubois et Christian Perrichon. Moi, je conclurai en leur témoignant toute ma reconnaissance. Et puis... Je leur adresse aussi mes félicitations. Au fil des années, ils ont toujours cette même passion et cette volonté de servir, parce que le but, c'est de servir le sport cycliste, c'est de se mettre à disposition des jeunes, les faire progresser. Et moi, je crois que j'ai 27 cadets que j'ai retrouvés dans les professionnels depuis 2007-2008. Alors, on sert à quelque chose. On contribue modestement à la construction du cyclisme français et au-delà même.
Moi, je pense qu'en tant que coureur, tous les coureurs, on devrait, remercier, comme tu l'as dit, que ce soit les familles, que ce soit l'organisation. Je pense qu'on peut leur en être très reconnaissant, parce que grâce à eux, on peut faire quand même une course à hauts enjeux. Donc, comme je l'ai dit, c'est quand même hyper spécial pour nous. Et je pense qu'on a eu de la chance de faire ce Tour de l'Ain. On a de la chance de pouvoir le faire chaque année. Et je pense qu'on peut bien les remercier quand même.
Et Gabin, toi tu as 16 ans cette année, l'année prochaine tu es junior, cette expérience de course à étapes, ça peut être motivant peut-être pour Lain Bugey, Valrhom et Tours, deux années junior, courir encore sur les routes de l'Ain avec nos amis de TVO, mais là aussi la marche est haute, mais c'est un objectif.
Oui, bien sûr, c'est un objectif, hein. Après ça sera un rêve, le niveau est quand même très élevé, là on commence vraiment à s'approcher des professionnels. Cette année, c'est encore la première ou deuxième étape, c'est encore le champion du monde qui gagne. Donc, il y a quand même beaucoup de niveaux, mais c'est quand même un rêve, je pense, d'y participer, parce que c'est une très grande course et ça sera un honneur, en tout cas, d'y participer.
Eh bien voilà, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Je vous donne donc rendez-vous l'année prochaine pour la 22e édition du Tour de l'Ain U17. La date reste méconnue, mais nous allons bel et bien nous revoir. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Radio B. Alain, tu veux rajouter quelque chose ?
Oui, l'émission sera en podcast, donc c'est il faut aller au niveau du magazine. Hein, vous avez la page d'accueil de radio-b.fr. L'info, on clique, le magazine et on aura la rediffusion dès que notre technicien aura mis tout ça en ligne, donc dans quelques heures.
Merci à tous, au revoir.
Au revoir.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien.